silence.
Vous êtes toujours sur Radio Entre deux Mers et tout de suite, c'est votre émission, la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour, bonjour Thibault. Bon, ben écoute, toi tu vas bien, alors j'espère que tout le monde va bien, autour de toi également. Aussi. Je sais que tu vas bien puisque…
Oui, moi ça va, oui.
Et bonjour mes chers auditeurs, bonjour nos chers auditeurs, tu vois je suis encore possessive. Mes chers auditeurs, nos chers auditeurs, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de nous recevoir chez vous en tout cas. Et là, maintenant, on va vous parler de cinéma. Voilà. Alors, on commence par quoi ? Tu sais, je suis contente parce que j'ai encore des films d'animation.
Oui, j'ai vu qu'il y en a pas mal en plus, des films d'animation aujourd'hui.
Et puis, ils sont très, très beaux.
Plein d'animations différentes en plus.
Tout à fait. Alors, on va commencer par l'animation à partir de 3 ans. Ça s'appelle Pyro Pyro et ça dure 40 minutes. Mais oui, quand c'est des petits, à partir de 3 ans, ça ne peut pas durer non plus trop, trop longtemps. Hein. Donc, alors, on a deux réalisateurs sur ce Pyro Pyro. On a Tsung Ha-min, c'est un réalisateur sud-coréen. Bon, pour l'accent, ce n'est pas terrible, mais bon, on fait comme on peut. Et puis, on a Mi-Young Baek aussi, qui travaille avec lui, qui est réalisateur, producteur, scénar. Également, sud-coréen, voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir parler de Pyro Pyro. Alors, Pyro Pyro, c'est un ensemble de 6 films d'animation poétiques, sensibles, où le talent de 2 jeunes réalisateurs sud-coréennes, c'est des réalisatrices d'ailleurs, hein, en fait. Moi, je ne sais pas trop par rapport au prénom, mais j'ai dit à réalisateur, mais ce sont des réalisatrices sud-coréennes, Baek Mi-Yoon et Min Sung-ha. Elles dévoilent des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films dans lesquels on partage des instants de tendresse et d'humour. Ben oui, parce qu'il y a un crocodile quand même qui est endormi et qui rencontre un petit oiseau. Il y a l'histoire d'un oiseau qui aimait les fleurs. Il y a le parcours initiatique d'un papillon bleu dont l'instinct lui dicte de suivre des fleurs en se laissant porter au gré du vent. Et puis Pyro Pyro et Dal, ce sont 2 copains, 2 oiseaux copains. Le premier vient de la forêt, le second de la ville. Lorsqu'ils se rencontrent devant un magasin de fleurs, c'est là qu'ils deviennent copains. Pyro Pyro voudrait qu'ils s'envolent ensemble vers la forêt, mais Dal ne semble pas en état de voler. Et puis il y a des lapins aussi qui dansent sous la pluie. Enfin bref, c'est très 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 joli, c'est adorable. Moi j'adore le dessin, les couleurs, tout, la musique, tout est charmant dans ce film. Pyro Pyro. À partir de 3 ans, mes chéris, vous pouvez y aller, vous pouvez emmener vos petits, éventuellement même souvent les mamans. Moi, j'ai vu des mamans emmener les petits voir le film. Elles allaient faire 2-3 courses et elles revenaient les chercher. Il suffit de le dire quand on rentre et quand on prend les tickets. Voilà. Et là, ça pose pas de problème. Voilà. Ensuite, eh bien, on en a un autre. Oh, c'est un joli titre. Dounia et la princesse d'Alep. C'est joli, hein, tu ne trouves pas Thibaut Dounia comme prénom ?
C'est vrai que c'est un beau titre de film, et c'est un beau prénom aussi.
C'est un beau prénom. Alors là, c'est à partir de 6 ans. Ça dure 1h12. Alors, c'est de l'animation, du fantastique, il y a de l'aventure aussi. Et là, c'est pareil, on a quand même 2 réalisateurs, dont une réalisatrice syrienne qui s'appelle Maria Zarif. avec André Cady. Alors, André Cady, c'est un réalisateur français. Ils ont fait ce joli film. Alors, c'est quand même, c'est vraiment beau, quoi. C'est l'histoire de Dounia, elle a 6 ans, cette petite Dounia. Elle quitte Alep avec quelques graines de nigel au creux de la main. Et avec l'aide de la princesse d'Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde. C'est pareil, c'est beau comme tout. C'est les dessins, c'est mignon, c'est adorable, c'est vraiment, c'est très très chouette. Moi, j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup les deux premiers là dont on vient de parler. Vraiment, Pierrot Pierrot, Dounia et la princesse d'Alep. Mes chéris, c'est vraiment très beau.
Puis quand on voit les deux affiches, on voit que c'est deux animations différentes, donc qui sont vachement sympas, aussi bien l'une que l'autre.
Tout à fait différente, c'est justement l'intérêt, oui. Et puis, alors, j'ai encore une animation, mais j'en ai même encore deux. Alors, celle-ci s'appelle Maurice, le chat fabuleux. Je trouve que c'est un prénom rigolo pour un chat. Maurice, le chat fabuleux. Ah ouais, ça dure 1h33. C'est à partir de 6 ans. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, hein. Il est bien écrit que c'est à partir de 6 ans. C'est animation, fantastique, c'est de l'aventure. C'est pour la famille, absolument, hein. Et là, c'est pareil, là. On a deux réalisateurs. Alors, il y a Toby Schenkel, qui est un réalisateur, collaborateur au scénario, c'est-à-dire qu'il a travaillé sur le scénario. Il est allemand, Toby Schenkel, et il a l'habitude de travailler avec un collègue qui s'appelle Florian Westermann, qui est un co-réalisateur, directeur artistique. Il est acteur également, Florian Westermann, allemand. Voilà, donc ils ont travaillé ensemble et ils ont donc réalisé ce beau film Maurice, le chat fabuleux, qui arrive dans une nouvelle ville, pardon, avec ses compères, les rats. Un seul but, arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d'or. Mais à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l'enquête. Démarre alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue. Ah ben oui, les rats et le chat. Oh, moi j'adore. Alors le chat, je l'adore absolument, Maurice, vraiment. Les rats aussi d'ailleurs. Ils sont tous vraiment adorables, c'est mignon comme tout. Et comme tu dis, Thibaut, c'est encore un autre genre.
Oui, hein, c'est encore un autre genre, ouais. On n'est plus sur de l'animation type Pixar, par exemple.
Oui, exactement. Alors, il y a écrit sur l'affiche « Voyez la vie en roux », pas en rose, en roux, parce que Maurice est un chat roux. Et c'est le chat. En fait, ce film a été inspiré du conte des frères Grimm, le joueur de flûte, de flûte. Je suis tellement emballée sur mon chat, le joueur de flûte de Hamelin, et ça a été adapté donc du roman Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants. Voilà, c'est donc c'est inspiré des frères Grimm. Alors le fabuleux Maurice et ses rongeurs. Alors ça a été publié, hein, on peut le trouver en 2001. Et ça a été édité, publié, ça c'est en Angleterre, ça a été édité en France en 2004. Donc on peut le trouver depuis 2004 en album, le fabuleux Maurice. Voilà. Donc c'est quand même intéressant. Et alors ils ont eu quand même une nomination pour Maurice, pardon, excusez-moi, au Festival du film fantastique de Gérard Maire. Ah, une nomination long métrage hors compétition. Très très beau film également.
Avec aussi un beau casting aussi. Bon, donc on a Hugh Laurie, donc pour ceux qui savent pas, le Dr House.
Oui. Ah ben oui,
le Dr House. Dans le doublage.
Tout le monde connaît le Dr House, je pense. Effectivement, il fait partie des voix, mais pas des voix françaises. Hein. Et c'est quand oui, même, oui. C'est un film qui est produit par la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Ah, donc, alors, on va passer à
je sais que tu veux aller super vite, mais avant que tu ailles super vite, je te propose justement qu'on écoute le Dr House.
Non, c'est pas pour aller vite, c'est pour pouvoir parler de tous les films le temps qui nous est imparti.
Ah oui, excuse-moi. Je te propose qu'on écoute le Dr House avec la bande-annonce de Maurice, le chat fabuleux.
Oui, j'avais oublié, oui, merci.
Maurice, le chat fabuleux.
Découvrez l'histoire de Maurice et sa bande de rats complices. Ils pensaient ronronner sur un tas de pièces d'or.
Je sens que cette ville est pleine d'opportunités.
Allez, on y va!
Mais c'était sans compter un étrange coup du sort. Ok, j'ai compris. Je sais maintenant ce qu'on va faire. Résoudre le mystère qui frappe la ville.
Je n'ai pas vu la queue d'un rat dans le coin.
Il y a une odeur, vous ne trouvez pas?
C'est comme une odeur de...
Une odeur de mystère.
Allez, cherchez l'entrée du passage secret.
Mais à quoi ça ressemble, un passage secret?
Y a pas de passage secret.
Vous n'allez pas croire ce qu'on a trouvé.
C'est un démon terrifiant.
Ouh. Effrayant.
N'ayez pas peur, un chat retombe toujours sur ses pattes.
Ah, Maurice.
Le fabuleux Maurice.
Vous devez le combattre.
Venez à moi.
Ceux qui sont pour.
Quoi? Je n'allais pas vous raconter la fin de l'histoire.
Maurice, le chat fabuleux. Ça va miauler au cinéma cet hiver.
C'était donc la bande-annonce de Maurice, le chat fabuleux. Et cette voilà. Fois, oui, je vais te laisser citer le prochain film.
Oui, oui, j'étais tellement emballée sur le chat, mais il me plaît beaucoup, moi, Maurice, hein, vraiment.
C'est
hein.
Vrai.
Ah oui, moi, j'aimerais avoir un chat comme ça, quoi. J'aimerais l'avoir chez moi.
Je n'ai pas trop envie qu'il m'arnaque non plus.
Oh, ben quoi, je me mettrai avec lui pour l'arnaque, bien sûr, évidemment.
Aussi, ouais.
Bah, pour pouvoir dormir sur un tas d'or.
Et partager les gains.
Je plaisante. Alors là, oui, on va parler d'un manga. Ah, moi, j'aime beaucoup les mangas. Est-ce que tu aimes ça, toi, les mangas, non?
Oui, oui, moi, j'aime bien. Enfin, je les regarde pas en film, je les regarde en série.
Et, voilà, il faudra demander à Jean, mais là, mes chers auditeurs, là, je ne peux pas parler à Jean parce qu'on n'est pas branchés sur les mêmes techniquement.
Je peux le faire parler.
Voilà, sinon, je voulais lui demander s'il aimait les mangas, Jean.
Ouais. Ben oui, j'adore ça, moi.
Ah, ben moi aussi, franchement.
Alors, pour ceux qui ne savent pas, Jean est notre stagiaire depuis lundi.
Oui, on l'a dit au début, mais bon, voilà, ouais, Jean est stagiaire. C'est le prénom de mon fils, tu sais ça, Jean, hein, c'est le prénom. T'as le même prénom, donc tu penses... Là, je me sens très proche, hein, vraiment. Allez. On va donc parler sérieusement de ce film parce que quand même c'est un très beau manga. Alors le titre est très long. Alors c'est Moi quand je me réincarne en Slim -le film -. Scarlet Band. Ça c'est le titre, hein, c'est vraiment le titre. Alors c'est un réalisateur japonais qui l'a réalisé. C'est Yasuhito Kikuchi. Réalisateur, créateur, il est showrunner également, japonais. Donc, il a fait un chouette truc là. Et en fait, c'est l'auteur de cette histoire s'appelle Fuse. C'est un auteur-créateur japonais. Fuse ou Fuse, je ne sais pas comment on dit, Fuse peut-être. Léu, c'est où, je crois. Fuse. Voilà. Donc, il a travaillé avec Fuse. C'est quoi? Ben, c'est l'histoire d'une conspiration qui se trame depuis longtemps à Raja. Et Raja, c'est un petit pays à l'ouest de Tempest, autour d'une mystérieuse puissance connue sous le nom de Ren. Lorsqu'un slime, je ne sais pas si on dit slime ou slime, non?
Je pense qu'on dit slime.
Slime, hein, ça fait un peu...
J'ai la confirmation de Jean à côté de moi.
Ah, ça me faisait... Voilà, ça me faisait un peu bizarre pour le titre. Quand j'ai dit « je me réincarne en slime », ça m'a un peu gêné. En slime. Ok. Lorsqu'un slime… Alors, on va dire ce que c'est le slime. Si Jean doit le savoir, lui, c'est la créature la plus banale qui soit. Le slime. Lorsqu'un slime ayant évolué en un roi démon nommé Limul Tempest croise le chemin de Hiro, un survivant des ogres, une incroyable aventure commence. Ouf, c'est une histoire un peu compliquée quand même. Elle sera faite de rencontres avec de nouveaux personnages, mais leurs liens seront mis à rude épreuve. C'est très... Alors, pour ceux qui aiment les mangas, c'est vraiment très, 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 très chouette. Ah ouais. C'est, voilà, c'est produit par le Japon. C'est, ouais, ouais, ouais. Pour les amateurs de manga, allez-y. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà. Un petit régal, là. Bon. Eh bien, on va abandonner l'animation, si tu veux bien, Thibaut.
Ben oui, on va passer à du grand film français, je pense.
Ouais, des longs métrages. Mais oui, on va commencer par un film français, oui, un long métrage qui est très attendu, qui va certainement être le phénomène de l'année, là, on suppose, hein, Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu. Eh oui, ça dure 1h51. Bah, l'aventure, la comédie, voilà. C'est réalisé par un Guillaume Canet qui semble en pleine forme, en tout cas. Acteur, réalisateur, scénariste, on le connaît, il est français, il a 49 ans, il a 28 ans de carrière, 79 tournages à son actif, pas comme réalisateur, hein, comme acteur également. Il a eu, il a reçu quand même, oh là là, il a 12 prix. Ah oui, 12 prix, je sais plus combien. En pleine de nomination, quand même. Hein.
Donc, ce qui n'est pas négligeable, je pense.
Ce qui n'est pas négligeable. Il a commencé par des courts-métrages, Guillaume Canet aussi. 4 d'ailleurs, je crois. Et il a commencé vraiment le long-métrage à partir de 2002 avec Mon Idole. Après, il y a eu Ne le dis à personne. Gros succès. Les Petits Mouchoirs, très gros succès également. Il s'est remis un peu au court-métrage et puis il est reparti dans les longs-métrages de fiction avec Rock'n'Roll. Bah oui, Nous finirons ensemble. 2018, et puis là, on est sur Astérix et Obélix. Alors, attention, je dis qu'il est en pleine forme parce qu'il joue dans le film, lui. Eh oui, on va voir d'ailleurs, on va en parler après. Alors, lui, il nous dit que c'est à partir de 8 ans. Voilà, on peut y aller à partir de 8 ans. Donc, c'est vraiment un film pour toute la famille, absolument. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'État fomenté par Deng Xiaoping, un prince félon. Ah, eh ben oui. Aidé par Grain de Maïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière, Tat, la princesse Fouyi, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers, Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Et oui. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquête, ont eux aussi pris la direction du milieu. Et attention, alors l'Empire du Milieu, on sait que c'est la Chine hein, qu'on appelle l'Empire du Milieu. C'est ce qui explique effectivement le titre. Alors, on a un casting, ouais, alors un casting d'enfer, il faut quand même le dire. Alors, Guillaume Canet, lui, c'est Astérix. Alors, on a Gilles Lelouch, qu'on connaît, bien sûr, on le connaît tous, hein, de toute façon, qui joue Obélix. Vincent Cassel nous fait César. Et puis, Grain de Maïs, dont on vient de parler, là, c'est Jonathan Cohen qui s'y colle. Et alors, tu ne me poses pas la question de savoir qui joue Cléopâtre ? Allô ?
Mais attends, qui joue Cléopâtre ?
Ah, qui joue ? Merci, merci de me... Je te lance, hein. Oui, Marion Cotillard. Ça fait très naturel, voilà. Marion Cotillard, ouais, c'est Cléopâtre. Bon. Il y a Julie Chen qui joue la princesse Fouilly. Elle est délicieuse, cette actrice.
Et il y a aussi José Garcia qui joue Biopix.
Oui,
un nom qui me fait beaucoup rire, Biopix.
Biopix. Ben comme José Garcia, qui est quand même quelqu'un qui nous amuse beaucoup là, dans la plupart de ses rôles.
Quand je regarde le casting et que je vois tous les noms, il y a beaucoup de noms qui me font beaucoup rire. Il y a Antivirus, par exemple.
Ouais, ouais.
Joué par Zlatan Ibrahimovic.
Rikiki, c'est Manu Payet. Il joue Rikiki. Ramzi Bedia, c'est Pinaïs que tu l'as dit, ouais. Oui, bah oui, c'est des. Pierre Richard, Panoramix, quand même. Jérôme Commandeur, bah c'est le chef, lui. Abra Raccourcix. Philippe Catherine, tu l'as dit. Audrey Lamy, c'est Bonne Mine. Eh oui. On a Franck Gastambide qui joue Barbe Rouge. Vania, Perfidus, etc. que des noms qu'on connaît. C'est vraiment un casting d'enfer. Léa Natchi, qui joue Tat Han, dont on a parlé dans le synopsis. Voilà, bon ben voilà, je pense que, mes chéris, je pense que vous allez certainement aller vous détendre pour aller voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bon, pour cette fois, ils partent en Chine. Oh. Et oui, je pense que tu as la bande-annonce, effectivement.
Et oui, effectivement, j'ai la bande-annonce d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
Ah ouais, elle est chouette cette bande-annonce. Merci.
J'arrive de Chine. J'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même ? Ouais. Mais moi, je sais où c'est. Je vais devenir le nouvel empereur de Chine. La mère Cléo, elle va pas s'en remettre.
Et mon nom restera gravé dans le marbre de l'histoire.
Ah, j'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Le dis bien.
Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous ? Non, mais non.
Moi, je suis d'accord. J'ai rien en ce moment.
Je t'arrête.
La princesse et moi, on va se marier.
Et tu sais quoi, Obélix ?
Tu seras mon témoin. Oh !
Mais c'est pas vrai, il est en train de lui parler, il est en train de nous balancer ! Oh !
Vous faites quoi, là ?
Rien.
Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine.
Moi aussi, je suis amoureux.
Je trouve qu'il y a beaucoup trop de coups de cœur dans cette aventure.
Bonjour, Obélix.
Bonjour, ta mère.
Mais tu m'aimes plus ?
Oui, dis oui.
Je l'aime ! Tu m'entends ?
Comment ça, tu l'aimes ?
Comment ça, tu l'aimes ?
Et ils sont où ? Et ils sont où, les Égyptiens ?
Tu sais quoi, Obélix ? On mange trop de viande.
Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi ?
Les légumes.
Des légumes ? Des légumes ?
Hein ?
De tout ça, il est fixe. Des légumes.
Merci.
De rien.
De quoi parler quand on peut voler ?
Clef ! Qu'est-ce que c'est que ça ?
Comme la dernière fois, tu t'étais blessé avec.
Bon, ça va.
Essaye de reprendre ta pièce, petit scarabée.
C'est très facile, vous êtes aveugle.
Présume jamais qu'un homme ne voit pas parce qu'il est aveugle.
Et celle-là, tu l'as vu venir ?
Voilà.
C'était donc la bande-annonce de Astérix Obélix, l'Empire du Milieu. Et je te propose qu'on passe maintenant à un film peut-être, je ne sais pas encore, un petit peu plus sérieux.
Oui, on alterne hein, comme ça, voilà, animation, comédie, drame, policier. Ben ça, c'est un drame, ça s'appelle After Sun. Et c'est Charlotte Wells, qui est une réalisatrice britannique, qui l'a réalisé, donc réalisatrice scénariste, elle a 35 ans. Donc elle avait déjà, oui, c'est ça, ah ben oui, ça y est, je mélange mes notes. Non, elle avait déjà réalisé un court métrage en 2017, qui a très très bien marché, et du coup elle s'est lancée dans le long métrage. Tant mieux pour nous, parce que j'ai l'impression que cette réalisatrice va nous épater plus d'une fois. En tout cas là, c'est un film qui dure 1h42. Et on va voir de quoi il s'agit. After Sun, avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant. Les moments partagés de joie, leur complicité, parfois leur désaccord. On repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux. La sourde et invisible menace d'un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années. Qui était vraiment cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître ? C'est une sacrée question, là, quand même, qu'elle se pose. Et là, on a. Ah oui, c'est quand même. Qui était cet homme qui est censé être son père ? Alors là, on a des acteurs un peu. Ben par exemple, on a Celia Rolson Hall, qui est une actrice mexicaine, qui a le rôle de Sophie adulte. Parce que c'est Frankie Corio, qui est une actrice britannique qui joue le rôle de Sophie plus jeune. Voilà, il y a deux Sophie dans le film, jeune et adulte. Et puis on a Paul Mescal aussi dans les rôles principaux, qui est un acteur irlandais. On a un peu de tout là. C'est chouette, on va pouvoir faire la connaissance d'un tas d'acteurs venus de pays différents. Voilà, on a Salim Essam dans les rôles principaux également. Ils ont beaucoup de talent en tout cas tous. Hein. C'est vraiment très, très, très. C'est un film dont je voulais parler parce que j'ai lu. Alors là, c'est quand même un signe, ça. J'ai lu des critiques. C'est un amour père-fille qui séduit tout sur son passage. Un rare moment de délicatesse. Une grâce empreinte de tristesse. Un premier film exceptionnel. Bouleversant, une révélation. Un éblouissement. Voilà ce qu'on rêve concernant ce film. J'avoue que j'ai hâte de le voir en entier parce que je pense qu'il est très très beau, effectivement. Je ne voulais pas le rater. Je n'avais pas envie de rater ce film.
Moi, je t'avoue, c'est le prochain film que j'aimerais bien aller voir.
Ah oui, moi aussi, en entier.
Parce que
j'ai
sûrement pas mal mon acteur préféré dedans.
C'est parfait. Très bien. Alors, ce film a été présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2022 et il a obtenu le prix French Touch du jury. French Touch. La touche française du jury. Voilà. Donc, en fait, elle avait commencé, Charlotte Bells, à travailler sur ce film quand elle était en école de cinéma, hein, déjà. Elle avait une vision, dit-elle, très conventionnelle de son film, de sa structure, de son intrigue, dans le sens où la relation était la source principale de tension. Donc, elle a continué à travailler sur ce film, et puis finalement, elle nous le présente, et ça, c'est vraiment une chance qu'on a. Pendant la préparation, d'ailleurs, elle nous dit qu'elle a cherché dans des albums de famille et elle a trouvé une photo d'elle et de son père dans le sud de l'Espagne où ils étaient partis en vacances quand elle avait à peu près 5 ans. Ah. Et elle nous dit « Il y avait une très belle femme derrière moi. Je me suis demandé alors qu'aurait pu être le vrai sujet de cette photo. » Parce qu'au départ, c'est l'histoire d'un père et de sa fille en vacances. Mais bon… Et comment, oui, effectivement, on peut se poser la question comment le père a pu trouver un équilibre entre le fait d'être un père et un jeune homme en même temps. Voilà. Faut pas trop en dire non plus sur le film. Là.
On va pas spoiler non plus, je pense.
J'ai toujours peur de trop en dire parce que bon, hein, ça vaut la peine. Il vaut la peine d'être découvert, voilà, ce film. Je le pense, je le trouve émouvant, même quand on en parle comme ça, je trouve que c'est assez émouvant, cette histoire entre cette personne, Sophie, et son père. Très beau. Moi, je trouve ça assez touchant. After Sun, franchement. Mes chéris, si vous y allez, je vous souhaite une très bonne séance. En tout cas. Voilà. Eh bien, on va passer à autre chose. Oh, allez, on repart dans la comédie, peut-être, hein?
Ouais, un petit peu quand même.
Oh, ben, il y a du tout, hein. Il y a du drame, de la comédie, comédie dramatique.
On est sur un grand medley de genres.
Oui. Alors là, ça s'appelle, justement, celui-là, drame, comédie, etc. Le pire voisin au monde. Moi, je l'ai pas. Tu l'as, toi, le pire voisin au monde? Non?
Comment?
Est-ce que tu as, toi, le pire voisin au monde dans ta vie ?
Non, ça va. De toute façon, j'ai pas de voisin, donc ça va.
D'accord. Ah oui, on a oublié de vous dire que Thibaut vit sur une île déserte.
Un peu comme l'acteur fut un temps dans un film.
Voilà, dans le Pacifique, on ne sait pas trop.
J'ai un petit ballon à qui je parle de temps en temps, il s'appelle Wilson.
Voilà, et il te pète le genou quand tu joues rugby avec lui.
Exactement. Mais juste le ballon, il n'y avait personne devant.
Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs qui sont au courant comment va ton genou quand même vite fait?
Ben, mon genou se soigne, ça va.
Bon, voilà. Comme ils sont au courant, hein, on leur dit quand même.
Oui, de toute façon, voilà. Je vais donner le micro à mon genou. Vas-y, genou.
Donc, le pire voisin au monde. Oh, alors ça, je l'aurais raté pour rien au monde, ce film. Il fallait absolument que je vous en parle, mes chéris. Il est de Mark Forster. Alors, Mark Forster, c'est un réalisateur, producteur, scénariste allemand de 53 ans. Il a 25 ans. Il a 23 tournages à peu près comme ça à son actif. Il a eu des nominations. Il a eu beaucoup de nominations dans sa carrière, ça se passe bien pour lui. Il va encore en faire d'autres parce qu'il est jeune finalement. Donc, espérons qu'il réalisera d'autres films pour notre plaisir. Alors, Le pire voisin au monde raconte l'histoire d'Otto Anderson, vieux bougon qui n'a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu'il s'apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille jeune et pleine d'énergie qui s'installe dans la maison voisine. Il fait alors la connaissance de Marisol, douée d'un sacré sens de la répartie, et il comprend qu'il a trouvé une adversaire à sa hauteur. Tandis qu'elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères d'Otto. Point de suspension. Mais oui. Et alors, on a un casting très, très, très chouette là-bas.
Sûrement le meilleur de la journée, je pense.
Ah, pour Otto Anderson.
Ne serait-ce que pour une personne.
N'est-ce pas? Tom Hanks, c'est ça. Oui. Ah, bah Tom Hanks. Oh, c'est un grand, grand, grand acteur, Tom Hanks, ça c'est sûr. Hein. Mais c'est lui, Otto. Hein. Alors, Marisol, c'est Mariana Trevino. Ou je crois qu'on dit Trevino. Oui, c'est ça, Trevino, parce qu'elle est elle est mexicaine. Elle est Marisol est mexicaine, voilà. Donc, on a Rachel Keller dans les rôles principaux également. On a qui est américaine, hein, elle. On a qu'est-ce qu'on a dans les rôles principaux? Ah, mais si, on a Manuel Garcia Rulfo. Alors lui, moi je le connais physiquement en tout cas, je l'ai déjà vu. Je n'avais absolument pas retenu son nom. C'est un acteur mexicain, Manuel Garcia Rulfo. Ouais. Mais ils sont tous pleins de talent, de toute façon. Vraiment, quoi. Alors, le personnage d'Otto Anderson a fait son apparition dans le best-seller mondial « Vieux râleur et suicidaire, la vie selon Ove » de l'écrivain suédois Fredrik Backman. C'est un immense succès planétaire, le livre. Il s'est classé sur la liste des best-sellers du New York Times pendant plus de 10 mois. Eh oui. Et en 2015, il a été porté à l'écran en Suède. Et le film, ensuite, est devenu un véritable phénomène. Voilà. Donc, il fallait en parler quand même. Donc voilà. Alors, c'est un producteur qui s'appelle Frédéric Castro qui a souhaité, lui, développer une version, une adaptation américaine. Voilà. C'est grâce à lui qu'on y a droit. Parce que c'est donc le film est produit par les États-Unis et la Suède. Moi, je dis que c'est un film à voir également. Ça te fait envie ou pas, Thibaut?
Oui, juste pour Tom Hanks.
Oui. Oh, il a des chouchous, Thibaut. Mes chéris, franchement, 2h07. Hein. Bon, d'accord, mais ça passe très vite, très bien. Parce que, alors sur l'affiche, on voit Tom Hanks qui fait la tête, hein, qui a une tête terrible, et il y a écrit au-dessus de lui « Le bonheur se lit sur son visage ». C'est de l'humour noir, ça, n'est-ce pas? Le pire voisin au monde. Et puis, est-ce que tu veux qu'on aille… j'ai un autre drame, je suis désolée, il y en a un peu quand même. « Amore mio ».
Allons-y.
C'est pas à toi que je dis ça, hein, c'est le titre du film.
Ah ouais.
Attention, parce que tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de lui dire des choses et tout. Non, Amore mio, c'est le titre.
Pour le détail, allons-y, c'est pas son prochain film. Hein.
Ça dure, Amore mio, ça dure 1h20. Et c'est Guillaume Gouix qui l'a réalisé. Alors, j'ai jamais su, Guillaume Gouix, c'est un grand acteur, hein, quand même, beaucoup. J'ai jamais su s'il fallait prononcer le X au bout de son nom ou pas. G-O-U-I-X. Alors, moi, je dis à chaque fois Guillaume Gouix. Bon, si ça se trouve, on ne prononce pas le X. Je voudrais le rencontrer pour le demander. C'est donc un réalisateur scénariste un acteur français. Il a 39 ans, 21 ans de carrière. Il a déjà 62 tournages à son actif, mais pas comme réalisateur, évidemment. Hein. Il a joué dans énormément de films. Et là, en fait, il en est à... C'est son premier long-métrage, puisque... Auparavant, il a réalisé 3 courts-métrages. 2011, 2014, 2019. Donc, c'est le premier long-métrage de Guillaume Gouy. Voilà. Et il a quand même déjà... Oh, mais oui, je crois que j'avais nommé un prix. J'avais noté ça, 12 nominations. Dans sa jeune carrière. Mais surtout comme acteur, évidemment... C'est vraiment quelqu'un de très doué qu'on a souvent vu. Et là, il s'agit de Amorelio. Lola refuse d'assister à l'enterrement de l'homme qu'elle aime. Elle convainc Margot, sa sœur, de les emmener, elle et son fils, loin de la cérémonie. Sur la route qui les mènera vers l'Italie, elle découvre les adultes qu'elles sont devenues et elle tente de retrouver la complicité des enfants qu'elles étaient. Jolie histoire quand même. C'est une jolie histoire. Et il y a un casting très, très sympathique. On a Margot, c'est Élodie Bouchet. Dieu sait qu'on connaît le talent de cette actrice. On a Alison Paradis. Pareil, on la connaît. Wow. Lola, et puis on a Félix Marito, Vigo Ferreira Redier aussi dans les rôles principaux. Ce sont des acteurs français, on les connaît, hein. on a peut-être pas retenu leur nom, mais on les a déjà vus, si on a l'habitude d'aller au cinéma, c'est certain. Voilà, ce sont des acteurs, c'est un très beau film. Il a travaillé, Guillaume Gouix, avec Camille Lugan, et Fanny Burdineau, qui sont des scénaristes français pour ce film. Il a, pour ce premier long métrage, donc, nous dit qu'il a toujours aimé les héros de cinéma, pardon, j'ai des problèmes là, qui osent faire ce que l'on n'en fait jamais, ce que l'on ne fait jamais, en raison des conventions. Il précise d'ailleurs, j'aime les héros qui disent merde. Et voilà. Quand on vit un deuil, dit-il, on peut avoir envie de dire merde à ces conventions, à ce que les autres attendent de nous en tant qu'endeuillés, comme si on avait un rôle à endosser. Voilà ce qu'il nous dit, effectivement. Alors, il a cherché à faire un film sur le deuil qui ne soit pas morbide. Hein. Il est plutôt, lui, dans son film, du côté de la vie. Un film qui va chercher une énergie insolente, lumineuse, nous dit-il. Lola est en deuil, mais elle porte des chemises à fleurs. Elle cherche le soleil, et dehors et dedans. Voilà. Et avec Margot, elle va en profiter pour sortir de son quotidien. C'est un film qui a une nomination. C'est français, hein, donc produit français. Il a une nomination à Angoulême, Festival du film francophone, Nouveau Regard. Jolie nomination, ça. Nouveau Regard. Hein. Eh bien, c'est un très beau film également. Il y a de beaux films, hein, là, vraiment.
Oui, alors, c'est une semaine avec de jolis de films sympas.
Ben, on ne sait plus où donner la tête, là, ces temps-ci. Il y a des très jolis films. On va repartir sur une comédie, veux-tu? Veux-tu qu'on reparte?
Oui, je veux encore rigoler, moi. Je ne veux pas m'arrêter de rigoler.
Bon, alors, ça s'appelle Ghost Therapy. Oh. Alors c'est réalisé par Clay Tatum. Clay Tatum, c'est un réalisateur, scénariste, producteur, acteur américain. Et oui, Clay Tatum. Alors c'est une, on va voir parce que on va d'abord, bon, on voit de quoi il s'agit. J'en bégaye ma foi. Voilà, ne t'emballe pas.
Ça va le faire.
Donc, c'est l'histoire de Clay, qui est un photographe solitaire au chômage, qui mène une vie artistique mondaine à Los Angeles avec sa femme Whitney. Cette dernière conseille à Clay, qui stagne sur le plan créatif, de sortir et de ne pas se contenter de rester allongé dans le salon et de boire de la bière. Ce qu'il va découvrir entre apparition et super-héros va changer sa vie à jamais. Oh oh ! Alors là, je ne sais pas où on va, mais on y va. En tout cas, dans le film, on a Clay Tatum, c'est le réalisateur qui joue le rôle de Clay. Whitmer Thomas joue le rôle de Whitney. Et on a Robert Longstreet qui est avec eux et qui joue le rôle d'Arnold. Ça, c'est une comédie, c'est le genre de comédie assez rare qui vaut la peine, hein, franchement. Clay Tatum a travaillé le scénario avec Whitmer Thomas, c'est-à-dire avec Whitney. Hein. Voilà. Ils ont travaillé tous les deux sur le scénario. Oui, c'est une comédie pas commune du tout. Alors, je voulais pas la rater complètement. C'est un produit américain. Hein. Voilà. Je trouvais que ça valait la peine, quand même, finalement, de citer ce film.
Bien. Et je te propose, du coup, de passer au prochain.
Mais absolument. Un petit frère, ça s'appelle. Oh, c'est joli, ce titre. Ça dure 1h56. C'est un drame de Léonore Serrail. Léonore Serrail, c'est une réalisatrice, scénariste française. Elle a 37 ans. Ouais. Il y a des jeunes réalisateurs cette fois. Hein. Il y en a deux, trois qui sont vraiment jeunes. Et de quoi ça parle ce film, alors, me demande-t-on? Je vais vous le dire tout de suite. Quand Rose arrive en France...
Attends, je vais poser la question si tu veux. De quoi ça parle ce film?
Très naturel. Quand Rose... J'ai la voix qui part en sucette. Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean. Ah ben toi, tu l'as déjà dans le studio, hein, Jean. Et on l'a
avec nous. Effectivement.
Et Ernest. Construction d'une famille de la fin des années 80 jusqu'à nos jours. Ça promet une sacrée balade de 80 jusqu'à nos jours, quand même. Et là, bon, on a un casting extrêmement sympathique. On a Annabelle Langron, c'est Rose. On a Stéphane Bach, c'est Jean, il a 19 ans. On a c'est Jean qui a 19 ans dans le rôle, hein. Jean a 19 ans. On a Kenzo Samba. Alors, Ernest, lui, dans le rôle, a 13 ans. Et on a Ernest adulte qui est joué par un acteur qu'on aime énormément. On est content de le retrouver encore, Ahmed Silla. Eh oui, Ahmed Silla et son beau et splendide sourire. Il est là. Eh oui, on a Sida Fofana. Alors ça, Sida Fofana, en fait, c'est Jean. Il joue Jean quand il avait 10 ans. Parce que, comme je l'ai dit, c'est Stéphane Bach qui joue Jean à 19 ans. On a également Audrey Kouakou, on a Étienne Minungu, on a Milan Doukansi. Alors, Milan Doukansi joue Ernest quand il avait 5 ans. Puisque là, on le retrouve après, il a 13 ans. Hein. C'est ce qu'on avait dit. Donc, c'est Kenzo Sambin qui joue le rôle d'Ernest à 13 ans. Et Milan Doukansi, ils sont adorables, les mômes. Vraiment, ils sont adorables. Dans ce film. Et oui, alors le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2022. Un petit frère, en fait, c'est un film qui est né de l'étonnement, pardon, de Léonore Serrail, de ne pas avoir, dit-elle, cette histoire-là portée au cinéma, alors qu'elle faisait autant partie de mon pays, de ma vie. Voilà ce qu'elle nous dit. Elle voulait également transmettre ce récit à ses enfants, en s'inspirant de l'histoire de leur père. J'ai mis quelques mois, dit-elle, à intégrer que ce serait très librement inspiré de son histoire et que ce serait mon film. Voilà. Donc, elle avait envie d'un film romanesque.
Ouais, et je te propose, du coup, qu'on regarde la bande-annonce de ce film. Donc, petit frère.
On écoute, tu veux dire. Effectivement. J'ajoute qu'il y a quand même 2 prix et 7 nominations. Pour ce film, un prix au Festival de Cannes, le prix CST de la jeune technicienne de cinéma pour Marion Burger, qui est technicienne pour le film, et 7 nominations Donc, je l'ai déjà dit. Et il y a un prix aussi à la Fondation Gann pour le cinéma. Prix Fondation Gann. Très joli prix. Merci pour la bande-annonce. Nous t'écoutons.
Voilà, ici, c'est modeste, mais on va s'arranger pour que chacun soit confortable. C'est la France, on est là pour s'aider, c'est la famille.
Il faut être des champions, il faut travailler à l'école, il faut être plus fort que les autres. Et on ne pleure pas.
Tu as besoin de quelqu'un. Pour toi, pour les enfants, qui s'occupent de toi.
Tu t'appelles comment?
Jules César.
Non, c'est Jules César.
Oui.
Mais viens, on fait une omelette. Parce
bon, on va faire une omelette, là, ça ressemble plus à rien du tout.
T'attends quoi de la vie?
Je sais pas, j'en sais rien. On prend ce qu'on veut ou bien on prend rien, je sais pas moi. On est libre.
Je passe la semaine à ranger, à peine t'es là, il y en a de partout.
Que je sois là ou que je sois pas là, tu m'en veux alors? Je fais comment?
Maman, laisse-le, on s'en va.
Jean. Ces derniers temps, ton frère a dépassé les limites. Tu m'en veux parce que tu n'as pas eu de père.
De père, non. Des papas, j'en ai eu plein. Hein.
Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Même si j'ai fait des erreurs.
Tu fais de ton mieux.
C'était donc la bande-annonce de Un petit frère. Et maintenant, je te laisse
oui,
le champ libre avec, eh ben, les autres, avec les autres films. J'ai dit libre, mais c'est pas grave.
C'est comme moi, aujourd'hui, on est un peu déjanté. Hein.
Ah non, mais aujourd'hui, on est des fous, là.
On se défoule, voilà. Est-ce que tu voudrais aller à la montagne?
Alors, j'en parlais avec Jean aujourd'hui même.
Oui, oui,
moi,
oui.
Je suis pas montagne, je suis plus bon. Plage, moi.
Ah, oh, bah zut, parce que je propose un drame fantastique qui s'appelle « La montagne ». C'est le titre du film. Et oui, ça dure une heure. Et c'est réalisé par Thomas Salvador, acteur, réalisateur, scénariste français. Il a 21 ans de carrière, il a 4 tournages à son actif. Et ne serait-ce que parce qu'il a très peu tourné, il a quand même déjà des nominations. Eh ben oui. Et il est lauréat à la quinzaine des réalisateurs 2022, lauréat pour La Montagne. Il a le prix SACT, qui est un très beau prix. Et trois, voilà, c'est une nomination et ce prix-là, pas mal du tout, pas mal du tout. Alors, de quoi s'agit-il, La Montagne? Même si tu ne l'aimes pas, ben tant pis, je vais quand même en parler. Il s'agit de Pierre, ingénieur parisien, qui se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s'installe à bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. Alors là, il ne faut pas en dire trop parce que c'est mystérieux.
Mais sinon, c'est plus très mystérieux, quoi.
Parce que c'est quand même un drame. C'est il y a du fantastique aussi, hein. Donc ça, c'est important. Eh oui. Et donc, c'est Lou Bourgoin qui joue Léa. On est content, on est très, très content de retrouver Lise Bourgoin. Parce que vraiment, elle a un talent fou, elle est plus que charmante, évidemment. Lise Bourgoin, on la connaît bien.
Et par donc, contre, pour ceux qui veulent savoir comment sont ces petites lueurs, tout ça, on peut le voir sur le site de la radio.
Oui.
Vous aurez le podcast de l'émission, et sauf que juste en dessous,
oui,
en description, vous avez tous les films qui vous renverront. Si vous cliquez sur le film que vous voulez, et par exemple voilà. La montagne, pour voir les petites lueurs, vous pouvez cliquer sur le nom du film pour avoir la bande-annonce.
Ah bien, alors Louis Bourgoin, qui est accompagné de Thomas Salvador, c'est-à-dire que c'est le réalisateur qui joue le rôle de Pierre. On a Martine Chevalier. Oh, c'est pareil, c'est une très grande comédienne, Martine Chevalier. On est vraiment très heureux de la retrouver, elle joue la mère. Et on a Laurent Poitrenaud aussi, dans les rôles principaux. On le connaît physiquement. on le connaît. On a pu oublier son nom, mais on le connaît. On a Andranik Manet, on a Catherine Lefroy, on a Sylvain Frendo dans les rôles principaux. Ah, c'est un joli casting. Ouais, pour moi, c'est un joli casting, vraiment. Alors, Thomas Salvador, lui, il se passionne pour la montagne depuis son adolescence. D'ailleurs, il s'est mis rapidement à l'alpinisme. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Quand on lui disait, quand on lui demandait au collège, au lycée, comme si on posait la question à Jean, notre stagiaire, là, puisqu'il est au lycée, si on lui demandait…
Non, il est encore au collège, notre cher Jean.
Quand on posait, c'est ce que nous dit Thomas Salvador. Quand au collège, on posait la question « profession envisagée », il répondait, lui, Thomas Salvador, guide de haute montagne, cinéaste. Et cinéaste de haute montagne. Voilà ce qu'il répondait quand il était collégien.
Et oui. C'est la classe quand même.
Ah bah oui. Du coup, ma première idée de long métrage était naturellement un film de montagne. Voilà. Voilà. Alors, il a préféré, lui, dans le film, appeler les mystérieuses créatures les lueurs, dans le but de les libérer des connotations associées au mot créature. Mais pour lui, pour le réalisateur, ces lueurs étaient là bien avant l'homme, comme une forme de vie primitive, voire originelle. Toujours selon moi, dit-il, elles vivent dans les montagnes jusqu'à ce qu'elles en soient délogées lorsqu'il y a des effondrements. Voilà. Elles apparaissent au pied des parois écroulées, mais personne ne les voit. Il voulait que les lueurs soient simples et minérales. Donc, il a fait ce qu'il fallait pour. Il faut aller voir le film pour voir ce que ça donne, justement. Alors, ces deux prix et deux nominations, ça, je l'ai déjà dit, hein, je l'avais dit, je crois. Oui, c'est ça. Oui, est-ce que je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit encore. Mais non, une nomination au film fantastique de Gérard Mer, donc le festival, long métrage compétition. Et puis, il a un prix, une nomination à la quinzaine des réalisateurs 2022, le prix SACT et le label Europa Cinéma Bon Sang. Vraiment un joli prix et deux belles nominations. Ah oui, oui, très très chouette ça. Ouais. Donc, il a été produit par la France.
Je te propose de passer à l'avant-dernier film.
Oui.
Donc, Tel Aviv, Beyrouth.
Tel Aviv, Beyrouth. Oui, oui. C'est un Tel Aviv-Beyrouth, oui. C'est un drame de Michel Boganim. Mikal, c'est pas Michel, c'est Mikal, je sais pas comment on prononce. C'est une réalisatrice scénariste franco-israélienne. Mikal, je pense, hein, ouais, Boganim. Elle a 21 ans de carrière, 7 films, 7 tournages à son actif. Elle a déjà eu, un prix, je crois, oui, elle a eu 14 nominations, j'avais noté ça, effectivement. Pour Tel Aviv, Beyrouth, oui, oui. Alors, c'est produit par la France, l'Allemagne et Chypre. C'est un oui. Et je voulais en parler parce que pour les amateurs de ce genre de cinéma, c'est quand même intéressant. Ça se passe entre 1984 et 2006. Il y a deux familles, l'une libanaise et l'autre israélienne, qui sont prises dans la tourmente des guerres à répétition entre Israël et le Liban. Entre le sud du Liban et Haïfa, l'histoire vient à la fois bouleverser et réunir les destins individuels. Je pensais que ça pouvait quand même être très intéressant avec Sophia Essaïdi, qu'on connaît, hein, qui est une actrice française qu'on connaît, qui a plein de talents. On a Sarah Adler, pareil, qu'on la connaît. C'est un beau casting aussi. Zalfa Sora, Shlomi Elkabetz aussi, dans ce film. Alors, c'est un acteur israélien qui est très connu chez lui, Shlomi Elkabetz. Voilà. Il me semblait que on pouvait quand même en parler. Mikal Boganim, la réalisatrice, elle est née en Israël et son père a été soldat. Il a même été démineur lors de la guerre du Kippour en 1973. Elle était à Tel Aviv en 2006, elle, la réalisatrice, lors de la deuxième guerre du Liban, et elle a vu l'occupation israélienne côté libanais. Voilà pourquoi je voulais citer ce film également. Et puis pour terminer, j'avais un thriller, c'est de l'espionnage. Il y a des fans d'espionnage quand même, hein, beaucoup,
oui,
d'ailleurs.
De toute façon, il y a un public pour tout.
Ah, tout à fait. Ça s'appelle Le piège de Houda. Et c'est réalisé par Annie Abou Assad, Anis avec un H. Hein. C'est un réalisateur, scénariste, producteur palestinien. Il a 61 ans, 20 ans de carrière, 14 tournages à son actif. Il a été également récompensé parce qu'il a 2 prix et 8 nominations dans sa carrière. Ça se passe bien pour lui. Pour l'instant, en tout cas, talentueux. Et le piège de Houda, c'est il y a un avertissement, des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs, ça c'est important. C'est l'histoire de Rim, une jeune mère mariée qui se rend au salon de coiffure de Houda à Bethléem, en Palestine. Après avoir mis Rim dans une situation déshonorante, Houda la fait chanter et la contraint à donner des renseignements au service secret israélien et ainsi à trahir son peuple. Dans la nuit, Houda est arrêté par Hassan, membre de la résistance, mettant en danger la vie de Rim et de sa famille. Donc, Houda, c'est la coiffeuse. C'est la dame du salon de coiffure. C'est son piège, le piège de Houda. Voilà. Et on a des acteurs, ben oui, on ne les connaît pas, mais justement, c'est le moment ou jamais de faire connaissance de ces acteurs israéliens. On a Maïssa Abd Eladi, on a Manal Awad, on a Ali Suleiman, on a Samer Bisharat. Alors, je donne leur nom d'abord par courtoisie et surtout parce qu'ils sont connus chez eux. Ce sont des acteurs connus et reconnus. Hein. Donc, on peut dire que c'est un bon casting, justement. Voilà. Voilà, ça, c'était pour le dernier film, donc, Le piège de Houda. Ce film dure 1h30. Alors, il est produit par la Palestine, l'Égypte, les Pays-Bas et le Qatar. Quand même, ils s'y sont tous mis. Voilà ce qu'on peut dire sur ce film d'espionnage.
Eh bien, que dire de plus ?
Bon, on va essayer de retrouver un peu notre sérieux pour la prochaine fois. Oh oui, mais on est toujours sérieux, non ?
Oui, on est toujours sérieux.
Oui.
J'ai toujours été sérieux.
Non, mais simplement, il faut dire une chose, c'est qu'on est tellement content de retrouver nos auditeurs, d'être là avec eux, parce que même si on ne les voit pas, on est quand même là avec eux, que de temps en temps, voilà, hein, on s'échappe un peu comme ça, pour eux, voilà, pour leur faire plaisir, les amuser aussi un peu. Hein? On parle de cinéma, donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Les drames au cinéma ne sont pas les drames de la vie, on ne peut pas tout confondre.
Ouais, heureusement.
On est bien d'accord, heureusement.
J'imagine bien John Wick dans l'entre-deux-mers, là.
Oui, tout à fait. En tout cas, bon, ben, moi, je vais te dire au revoir, hein, on va se quitter. Voilà, merci. Merci d'être là, Thibaut. Merci pour ton aide, pour tes bandes annonces, tout ça. Et puis, je dis au revoir à Jean, bien sûr, notre stagiaire.
Attends, je vais lui laisser le micro.
Au revoir, Jean. À bientôt. Et puis, mes chéris, ben, je vous dis au revoir aussi. Voilà. Passez une bonne semaine. Soyez heureux autant que vous pouvez. Profitez bien de la journée qui passe, surtout. Voilà. Carpe diem. Eh oui. Et prenez soin de vous et de votre entourage. Mais là, je sais qu'il n'y a aucun souci avec vous. En tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Bisous.
Silence.
Déjà c'est toi qui pars.
Je t'attends sous les branches et déjà je flanche. Dis-moi qui vit là au Kamtchatka, au Kamtchatka. Déjà je t'ai suivi au bout de la Russie. Toundra, ours géant et tous ces volcans. Dis-moi qui vit là au Kamtchatka, au Kamtchatka. Dépêche, mais dépêche-toi, je suis pas tendre quand j'ai froid. Dépêche, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, dépêche, mais dépêche-toi, j'en perds le nord. Aimez-toi, dépêche, mais dépêche-toi, dépêche-toi, Sabarka. Déjà ta bourse des liards, c'était pas du caviar. Si j'ai gardé au cou ce châle de Moscou, je n'ai plus que ça au Kamtchatka, au Kamtchatka. Dépêche, mais dépêche-toi, je sais pas tendre quand j'ai froid. Dépêche, mais dépêche-toi, dépêche-toi. Ah, dépêche, mais dépêche-toi, j'en perds le nord. Aimez-toi. Viens-moi tard, fini le temps des tsars. Je t'attends sous les branches et encore je flanche. C'est pourquoi je bois toute ta vodka au Kamtchatka. Dépêche, mais dépêche-toi.
Sur le 98.4 FM.
Salut à toutes et à tous, c'est Seb. Il est l'heure pour moi de vous parler des idées sorties de ce week-end. Et on va commencer avec le vendredi